France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
C'est un peu voyant, votre main verte. Alain Baraton, bonjour Alain.
J'aime le vert. Bonjour Éric, bonjour Patricia, bonjour à
Alain.
Tous.
Avec une expression ce matin, qu'appelle-t-on précisément débourrement des bourgeons?
Alors le débourrement est un mot qui signifie la fin de la dormance pour les bourgeons. Et c'est parce que le terme n'est pas très beau que l'on préfère parler de l'éclosion des bourgeons. Alors si je vous en parle ce matin, c'est bien sûr en raison des températures anormalement clémentes et après avoir constaté que certains arbres, comme les saules pleureurs, sont déjà presque en feuilles et cela m'inquiète.
Alors on va faire comme en philosophie, hein. On va conceptualiser, définir le concept. Qu'appelle-t-on et comment est-ce qu'on peut définir un bourgeon?
Pour faire simple, le bourgeon est une jeune pousse de feuilles repliées les unes contre les autres. Ce que l'on sait moins est qu'il se forme en été et qu'il est complet à la fin de l'automne. Le bourgeon passe l'hiver sans subir la moindre modification.
Et en quoi est-ce important de bien observer les bourgeons?
Alors c'est plus qu'important, c'est indispensable et pour plusieurs raisons. C'est son aspect qui nous indique la fin de la dormance, donc l'arrêt des plantations et transplantations à racines nues. C'est son implantation sur la tige qui nous indique où placer le sécateur quand vous taillez après la floraison ou pour réaliser une bouture ou une greffe comme en écusson à œil dormant. Terme magnifique, je trouve ça très beau. Une greffe en écusson à œil dormant, un terme qui explique assez joliment l'état dans lequel se trouve le bourgeon, à savoir sans aucune activité biologique.
Il est important aussi de bien différencier les différents types de bourgeons.
Et oui, principalement dans le verger et surtout avec les arbres fruitiers à pépins. J'explique. Ces derniers produisent trois types de bourgeons et il faut donc savoir les distinguer. Il y a tout d'abord le bourgeon à bois, celui que l'on voit le plus. Il y a ensuite le bourgeon à fleurs, qui se distingue du précédent par sa forme arrondie. Il y a enfin le bourgeon allongé appelé dard, dard de par sa forme, qui peut évoluer et offrir soit une branche, soit une fleur, et ce en fonction de la quantité de sève absorbée. L'art de la taille, la subtilité de la taille, devrais-je même dire, consiste donc à privilégier les bourgeons à fleurs pour qu'ils deviennent des fruits, d'où l'importance de bien les reconnaître.
D'ailleurs, est-il possible d'identifier un arbre en hiver simplement en regardant les bourgeons?
Oui, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, car même si chaque arbre a un bourgeon bien caractéristique, la ressemblance est parfois trompeuse, sauf pour deux arbres, le frêne et le lilas. Alors tous les apprentis dans les écoles horticoles le savent, ils peuvent de temps en temps un petit peu faire les intéressants auprès des amis. Le bourgeon, par exemple, du frêne est noir et il est le seul bourgeon noir à ma connaissance qui soit de cette couleur. Autre bourgeon assez amusant, celui du lilas. Tous les lilas produisent des branches et à l'extrémité, il n'y a jamais un bourgeon, mais deux bourgeons côte à côte et de même dimension. C'est ainsi qu'on peut distinguer ces deux végétaux en hiver sans feuilles. Et puis je repense également à Alexandre Dumas. Je crois que c'est lui qui a dit « C'est le printemps et tout n'est que bourgeon ». Et j'adore cette petite citation.
Et cette expression donc ce matin, « débourrement des bourgeons oui. », on préférera éclosion des bourgeons,
tout
bien
à fait.
Alain Baraton est un poète.
Oui, bien sûr.
Mais non, mais la nature n'est que poésie.
Vos conseils à présent aux auditeurs, auditrices de France Inter avec Étienne qui vous demande, Alain Baraton, est-ce le bon moment pour aller planter des glaïeuls?
On se calme, on se calme. Nous sommes dans les derniers jours de février. Il fait doux, anormalement doux. L'hiver peut revenir, le froid peut revenir. Souvenez-vous du bon dicton populaire en avril,
ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, fais ce qu'il te plaît.
Oui, bravo, je vois que vous connaissez vos classiques,
bien
Patricia.
Sûr.
Sauf que nous ne sommes qu'en février. Et le retour du froid n'est pas à exclure. Ce qui me fait très peur, c'est que je vous ai parlé il y a un instant du bourgeon, de toutes ces petites feuilles, de toutes ces petites tiges qui craignent le froid. Alors la plante est déboussolée, elle sort une petite feuille, elle voit qu'il y a du soleil, la température est douce, et hop, que se passera-t-il demain si le gel arrive? Donc on se cale. Patience, patience. Les glaïeuls au sud de la Loire, allez, c'est mi-mars. Au nord de la Loire, c'est fin mars. Pas avant, on ne change rien.
Mylène vous demande, quand faut-il tailler les caryopteris?
J'adore cet arbuste.
C'est quoi?
Le caryopteris, c'est un petit arbuste qui souvent a des fleurs de couleur bleu métallisé, bleu sombre, absolument superbe, je dirais même bleu nuit. Voyez-vous, je suis très poétique ce matin. Et effectivement, poétique parce que j'ai rencontré une femme tout à l'heure en venant qui m'a dit qu'elle écoutait la chronique et qu'elle adorait au printemps mes montées de sève. Je trouve ça très poétique.
Faites-vous plaisir.
Mais oui, ça fait pas de mal. Donc le caryopteris, disais-je, est un très bel arbuste qui a des fleurs magnifiques. J'en profite pour dire que le bleu, le caryopteris mélangé à du forsythia, le mélange est absolument somptueux. Donc on va le tailler après la floraison.
Après la floraison, c'est-à-dire pas trop maintenant.
Non,
on va attendre.
Non, on attend. Oui, on attend.
Léo, pourquoi est-il souvent conseillé de tailler les branches d'un arbuste après sa plantation?
Eh bien, tout simplement pour réduire sa voilure. On fait très simple. Quand vous plantez ou quand vous transplantez, vous avez réduit forcément le volume des racines. Or, les racines, eh bien, ont besoin de se développer. Et pour favoriser leur développement, on va réduire les feuilles pour que le développement se fasse prioritairement sous terre. En réduisant les branches, vous encouragez, eh bien, le végétal à mieux s'implanter car il a moins besoin d'eau de par justement le moins, j'espère que vous me suivez, les feuilles ont moins. Donc, moins il y a de feuilles, moins la plante a besoin d'eau, vous me suivez?
Oui.
Donc, elle peut à ce moment-là, pour capter davantage d'eau, développer ses racines, d'où l'intérêt de tailler un petit peu les branches après une plantation.
Valérie de Neuchâtel, est-il encore
soufflé, temps? Allez, allez, doucement,
non, mais j'ai pour bien plus. Expliquer, il fallait que je sorte les rames, il m'arrive de temps en temps.
On a compris, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Et moins il y a de gruyère, moins il y a de trou. Est-il temps de semer de la mâche en ce moment?
Alors la mâche, non. La mâche en principe c'est...
Et la manche encore moins.
Encore moins. La mâche, j'adore la mâche, c'est merveilleux. Vous allez me dire pourquoi vous parlez de la mâche comme hier les radis. J'aime bien dire ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. On ne se change pas, j'ai 62 ans, c'est ainsi.
On va tout savoir si on va à la marathon.
Oui, ce matin.
Dans le texte.
C'est le printemps, j'aime le printemps. Août, septembre, octobre sont les mois idéaux. Pour semer de la mâche. Après, on peut toujours tenter le coup, mais j'ai bien peur que ce soit trop tard. Là, il est encore temps d'en récolter. La semer serait, je crois, une pure folie.
Une dernière question de Justine. Pour gagner du temps, dit-elle, demande-t-elle, puis-je déjà semer les ignaces?
On se calme, on attend.
C'est quoi le vignard?
Oh, le vignard, c'est une fleur merveilleuse. C'est une fleur qui, pour faire là encore, pour caricaturer, c'est une marguerite aux couleurs très vives. En attendant donc fin mars, allez, avril et encore, on prend son temps. C'est une plante qui se sème directement dans le jardin sans problème. Allez, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.
Très bien, on va donc attendre là encore. Un dernier conseil pour le dimanche.
Si je vous parle de Sonja et Tony Schmidt, ça ne vous dit pas grand-chose. Si je vous dis qu'ils ont écrit un livre qui s'appelle Une vigne bio dans mon jardin, ça peut éventuellement vous éclairer. C'est publié au Rouergue, un très bel ouvrage qui vous explique simplement comment produire chez vous une vigne de la plantation à la dégustation.
La dégustation, c'est-à-dire qu'on va récolter
et on va boire à la santé du printemps.
Mais on ne boit pas tout de suite. Après, il faut quand même fabriquer son vin.
Ah oui, tout à fait.
Il faudra la vinification, attendre encore un peu. Tout c'était la main verte d'Alain Baraton. Merci et à samedi prochain.